si je vous dis grenade, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être terrorisme, explosion en public, carnage, ambulance, plan rouge. Peut-être il y en a qui sont plutôt portés sur le tourisme. Ils vont penser à l'Espagne, à Granada. Et en fait, la Bible parle de grenade. Mais lorsqu'elle mentionne ce mot de grenade, c'est toujours pour parler du fruit, le fruit du grenadier. Et la première référence à ce mot se trouve dans la Bible, dans Exode 28, lorsque Dieu explique à Moïse comment le grand-père doit être habillé pour entrer dans le Saint des Saints, pour servir dans le tabernacle. Et parlant de la robe que le grand prêtre portait sous l'éphod, c'était, on pourrait dire, une écharpe d'apparat, Dieu explique dans Exode 28, 33, verset 33, c'est pas la peine de vous y tourner, il explique à Moïse, « Tu feras sur les pans de cette robe des grenades violettes, pourpre et cramoisie tout autour, et au milieu d'elles des clochettes d'or tout autour. Une clochette d'or, une grenade, une clochette d'or, une grenade, sur tout le pan, les pans de la robe. Et Aaron s'en revêtira pour faire le service, le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le lieu saint, devant l'Éternel, et quand il en sortira, de la sorte il ne mourra pas. » Donc en fait, en ourlet, le grand prêtre avait des décorations, c'était des petites clochettes qui faisaient du bruit, et ces grenades. Et l'allusion au fait que le grand prêtre ne mourrait pas, c'était que lorsqu'il entrait une fois l'an, le jour des expiations, le jour du Yom Kippour, dans le Saint des Saints pour présenter un sacrifice pour le peuple, et d'abord pour lui et pour le peuple, il n'était jamais sûr que ce sacrifice serait accepté. Donc on lui mettait des petites clochettes. La tradition dit même qu'on le laissait rentrer avec une... Il avait une corde attachée au pied. La cheville, voilà. Une corde attachée à la cheville. Au cas où il serait mort, on n'aurait plus entendu les clochettes. À ce moment-là, on pouvait le tirer par-dessous le voile avec cette corde. Donc ces clochettes avaient un but bien précis, c'était de se faire entendre, faire savoir s'il était vivant. Mais il y avait ces grenadiers, ces grenades qui étaient comme des gros fruits, qui symbolisent un gros fruit rempli de graines. Et il y a toujours une très belle correspondance entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où on voit des images dans l'Ancien Testament. On a dit souvent que l'Ancien Testament c'était comme une bande dessinée, qui présentait des vérités spirituelles qui étaient révélées de façon plus nette dans le Nouveau Testament. Et certains voient dans ces clochettes d'or et ces grenades ce que l'Esprit fait dans l'Église. Et les clochettes d'or, ils disent, ça correspond aux dons de l'Esprit, particulièrement les dons de manifestation qui manifestent la présence de Dieu. On entend les clochettes, on voit les dons d'esprit, on entend les dons d'esprit, on sait que Dieu est présent. Et par contre, les grenades, ces beaux fruits, ça correspond aux fruits de l'esprit. Il y a deux choses, il y a les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont silencieux, mais tous les deux, les dons autant que les fruits, sont importants pour l'Église et sont un signe de la présence de Dieu, de l'Esprit-Saint dans notre vie et dans la vie de l'Église. Et on pourrait dire que tant qu'il y a des dons, l'Église n'est pas morte. Paul, dans le livre, dans l'Épître aux Galates, oppose les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Et le mot fruit est au singulier. Il dit le fruit de l'esprit, non pas les fruits de l'esprit. On va lire ensemble, si vous le voulez, Galates 5, 16 à 23, qui se trouve page 216. Dans la Bible à la colombe, dans le Nouveau Testament, dans la deuxième partie donc. On va lire les versets 16 à 23. Paul nous exhorte. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Il est intéressant de noter comment il contraste les mots œuvre de la chair et fruit de l'esprit. Parce que les œuvres, c'est le travail, c'est l'effort de notre vieille nature pécheresse. Alors que le fruit, on peut dire que c'est le résultat naturel d'une croissance saine. On pense à un arbre qui est bien planté, qui est bien arrosé, bien ensoleillé. Il va produire du fruit. Et on pourrait dire, lorsqu'il dit le fruit de l'esprit est amour, c'est le premier fruit, c'est le fruit, c'est l'amour. C'est ce qui vient en premier dans cette liste. La grenade du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et pour faire un peu un parallèle avec la grenade comme une arme, on pourrait dire que l'arme secrète du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour qui va toucher les cœurs, c'est l'amour qui va montrer que nous appartenons à Christ. Et toutes les autres qualités qui sont mentionnées dans ce verset 22, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, on pourrait dire que ce ne sont que des attributs de l'amour véritable. On a dit que la joie, c'était l'expression de l'amour. C'est l'amour qui chante. Et c'est vrai que quand on est amoureux, quand on aime, on est rempli d'une telle joie que même les choses les plus difficiles ou les plus triviales paraissent agréables. Les choses ingrates, on s'en moque parce qu'on est habité par l'amour. La paix, on a dit que c'était la mission de l'amour. Ce n'est pas simplement la cessation des hostilités, mais c'est plutôt le désir de ne faire aucun mal et de faire que du bien à l'autre. La patience, c'est la compréhension, c'est l'amour face aux épreuves. Et c'est un mot qui veut dire en grec, en fait, avoir un long nez. On dit que des fois qu'on se met en colère, qu'on a la colère qui nous monte au nez, mais Dieu a un nez si long que la colère, elle prend du temps avant d'arriver à son nez. Et on doit avoir cette qualité aussi en nous, de ne pas s'emporter. La patience, c'est l'amour qui est capable de souffrir en silence. C'est l'amour qui encaisse beaucoup. On dirait que c'est l'amour qui se fait marcher sur les pieds, mais qui continue d'aimer malgré les blessures qu'il a reçues. La bonté, c'est la sensibilité de l'amour. C'est l'inverse de la dureté. Il est facile d'être abrasif, des fois un seul mot peut couper. On parle d'être sarcastique. C'est couper la chair, être sarcastique. Une petite remarque, comme coup de rasoir qui fait mal, qui va faire saigner. Au départ, on n'a même pas l'impression que ça a été coupé, mais quelque temps après, on remarque qu'on a perdu du sang et qu'on a très mal. La bonté, c'est l'inverse de ça. La bienveillance, c'est l'activité de l'amour. Ce sont des bonnes œuvres, c'est de faire des bonnes choses. Et on verra plus loin que la seule motivation possible pour les bonnes actions, ça doit être l'amour. La fidélité, c'est le même mot en grec que le mot de foi, mais c'est la foi dans l'autre. La fidélité, c'est faire confiance à l'autre. C'est imaginer le mieux vis-à-vis de l'autre. Il y a aussi les questions de douceur. Douceur, c'est un mot qui peut tromper, parce que ici, ce mot en grec veut dire une force contrôlée. C'est pas la douceur de la faiblesse, c'est la douceur de la force. On parle de ce mot en grec pour un cheval qui est dompté. Il peut être très puissant, mais il obéit à son maître. Il ne va pas ruer dans les brancards de façon inopinée. Il est puissant, mais il est calme. Et cette force qui est contrôlée, c'est aussi un aspect de quelqu'un qui ne cherche pas à se faire reconnaître par tout le monde. Il y a des fois des gens, ils cherchent à attirer l'attention sur eux, et on sait qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose en eux. Alors que celui qui a une force de caractère, qui est puissant, qui croit en Dieu, qui est tranquille, il n'a pas besoin de chercher à attirer l'attention des autres. Il est confiant de sa relation avec Dieu et de sa force. Et puis la maîtrise de soi, c'est l'amour qui a été discipliné. C'est la modération, c'est la restreinte de nos appétits, de nos tendances naturelles. Et ça, c'est le fruit de l'esprit, en un mot, c'est l'amour. Il est important de remarquer quelques différences entre les dons et le fruit de l'esprit, donc entre les clochettes et les grenades. Les dons, c'est destiné à l'Église, au corps de Christ, c'est pour le bien de l'ensemble. Le fruit est destiné aux croyants. Bien sûr, cette nouvelle nature va bénéficier l'ensemble du corps. Les dons sont faits pour fortifier les ministères, le service des autres. Le fruit va fortifier le caractère. Les dons, on le sait par la lettre de Paul aux Corinthiens, peuvent être utilisés à tort et à travers et faire du tort au corps de Christ. Alors que le fruit de l'esprit, ses qualités, on ne peut jamais mal les utiliser. Quelqu'un qui a ces qualités ne peut pas faire de mal au corps de Christ, bien au contraire. Les dons, on sait qu'ils sont donnés selon le Saint-Esprit, comme il l'entend, et donc on n'attend pas que chacun des croyants ait tous les dons, mais le fruit de l'Esprit, on est en droit de l'attendre de chaque croyant. Ces qualités doivent grandir dans chacun de nous, en chaque croyant. Les dons, Dieu ne nous commande pas de les avoir, il nous dit d'aspirer dans 1 Corinthiens 14, c'est-à-dire de désirer fortement. Par contre, en ce qui est question de l'amour, du fruit de l'esprit, nous sommes ordonnés, Dieu nous commande de poursuivre les fruits de l'amour, poursuivre l'amour, ce fruit de l'esprit. Et en fait, ce fruit de l'esprit doit être notre marque. Jésus a dit, les hommes verront, c'est à votre amour les uns pour les autres qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. L'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 4, 7 et 8, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc ça, c'est très fort encore. Si on prétend aimer Dieu, l'amour doit se montrer en nous. Le problème, souvent, c'est que le mot amour, le mot aimer, c'est un des mots les plus mal utilisés dans notre langue et dans bien des langues. On utilise ça à tort et à travers. Par exemple, je peux dire « j'aime la glace à la vanille » ou « j'aime ma femme Nancy ». Le même mot est pourtant deux réalités bien différentes. Et l'amour dont il est question ici, dont l'apôtre Paul nous parle, c'est pas l'amour d'Hollywood. C'est pas l'amour des chansonnettes. En grec, il y a quatre expressions qui désignent, qu'on peut traduire par amour. Il y a le mot eros, ça c'est l'amour physique, l'amour qui pense à lui-même, à la personne elle-même. On peut dire que eros, c'est je t'aime pour ce que tu me fais. À côté de ça, il y a l'amour philéo, ça c'est l'amour d'amitié, de l'amour qu'on a à être ensemble en compagnon, en tant que compagnon. Et on pourrait dire que philéo, c'est je t'aime pour ce que nous faisons ensemble. J'aime bien être avec toi, j'aime faire des choses avec toi. Il y a un autre amour, c'est l'amour storgé ou storgé, et ça désigne l'affection parentale, l'affection des parents pour les enfants, l'affection des enfants entre eux, l'affection débordante que Sébastien a pour Tonio et vice-versa. Ça veut dire je t'aime parce que nous sommes de la même famille. Et puis finalement, il y a l'amour agapé, cet amour divin, surnaturel. Et on pourrait dire l'amour agapé, c'est je t'aime parce que j'ai décidé de t'aimer. C'est l'amour qui vient de celui qui aime et qui ne se préoccupe pas de celui qui reçoit. C'est l'amour à sens unique, pratiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot agapé a dû être créé rien que pour le Nouveau Testament. Il n'existait pas dans le grec. Il a fallu qu'il trouve un terme pour désigner cet amour qu'on ne trouve pas dans le monde. C'est un amour surnaturel. Et Paul nous donne une très belle définition de cet amour agapé dans 1 Corinthiens 13, le grand passage de l'amour. Et on avait remarqué que ce passage se trouve très judicieusement placé entre le 12e et le 14e chapitre. Alors bien sûr, c'est une lapalissade que le chapitre 13 se trouve entre le chapitre 12 et 14, mais on l'avait vu, ça veut dire que chapitre 12, je vous rappelle, parle des dons de l'esprit, chapitre 14 parle des dons de l'esprit. Et c'est comme si au milieu de ce discours, l'Esprit Saint avait trouvé vital, capital, critique, de reparler de l'amour agapé, de cet amour surnaturel. Et j'aimerais qu'on lise ensemble 1 Corinthiens 13, page 197 dans le Nouveau Testament. Nous allons lire les versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour agapé. Si vous cherchez des passages à prendre par cœur, en voilà un par exemple, qui est un bon exemple, d'avoir ces versets, de pouvoir se rappeler que l'amour est patient, que l'amour est serviable, qu'il n'est pas envieux, c'est des choses qu'il est bon de mettre dans son cœur. Juste avant ce passage, au verset 31 du chapitre 12, Paul avait dit « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, où on pourrait traduire aussi « plus excellente ». Pourquoi est-ce que c'est une voie plus excellente ? Il nous répond au verset 1, 2, 3 qu'en fait, toutes les activités dont il fait question, le fait de prophétiser, le fait d'avoir une grande connaissance, la science de tous les mystères, d'avoir une foi qui permet de transporter des montagnes, de faire des sacrifices au point de donner ses biens, sa nourriture, même de donner son propre corps pour d'autres, pour être brûlé. Il dit, si l'amour n'est pas là, c'est rien du tout. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, même si ces activités sont bonnes et admirables de l'extérieur, elles peuvent toutes être accomplies pour de mauvaises raisons, pour de mauvaises motivations. Et le pourquoi et le comment nous faisons une chose est bien souvent plus important que la chose elle-même. Quelle est notre motivation ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est la culpabilité ? Est-ce que c'est le désir d'être reconnu ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des règlements ? Ou est-ce que parce que c'est l'amour ? On avait rappelé déjà que la motivation de la culpabilité, en fait, elle va vous faire de la peur, elle va vous faire juste le minimum. On va payer ses impôts au centime près, on ne va pas payer un centime de plus. Parce que ce qui nous motive, ce n'est pas l'amour du gouvernement ou l'amour de la gestion de notre pays, en sachant que tous les deniers vont bien être utilisés. Non, c'est l'inverse, on se dit ils vont tout gaspiller, donc on va payer le minimum, on va faire le minimum d'efforts. Par contre, si c'est l'amour qui nous motive, si on donne à quelqu'un qu'on aime, on va pas être limité, on va faire le maximum. L'amour va nous conduire à donner le maximum et non pas le strict minimum. Notre pasteur Wayne Taylor explique que les dons, c'est un peu comme des récipients qui sont destinés à transporter l'amour de Dieu. Et si on exerce des dons sans avoir l'amour, c'est un peu comme un récipient, par exemple un pichet d'eau qui serait vide d'eau. On exerce des dons, on va parler en langue, on va enseigner, il ne va pas y avoir l'amour. Alors qu'en fait, tous ces dons, leur but, c'est d'amener, de prouver, de répandre l'amour de Dieu. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement tragique d'en arriver à se disputer au sujet des dons entre différentes églises ou différentes dénominations. Ce qui compte, c'est de les exercer dans l'amour. Et notre pasteur a aussi une expression que je trouve très profonde. Il dit, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, comme on le croit si souvent. Ce qui tue l'amour, c'est pas la haine. Ce qui tue l'amour, c'est l'égoïsme. L'opposé de l'amour, c'est l'égoïsme. Et c'est pour ça, dans ces 16 éléments qu'on a, en lisant ce passage entre les versets 4 et 8, il y a 16 points, 16 éléments qui sont indiqués, et 10 d'entre eux, les 10 premiers, font mention de restreindre, de maîtriser. La maîtrise de soi est tellement importante parce que il y a notre vieille nature égoïste qui est toujours prête à agir, à réagir. Et la maturité, ça consiste justement à avoir cette vieille nature contrôlés par l'amour, contrôlés par l'Esprit Saint. Dans 1 Corinthiens 13, 11, Paul dit que lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant, il pensait comme un enfant, etc. Et c'est vrai que les enfants, ils montrent leur égoïsme sans artifice. Ils vont dire qu'ils veulent quelque chose tout de suite, jusqu'à ce qu'on leur apprenne d'attendre que tout le monde soit servi. Et encore, il faut... L'égoïsme, c'est naturel, c'est la vieille nature. On avait à l'école biblique une amie japonaise qui avait demandé à mon fils aîné s'il voulait venir avec elle vivre quelques mois au Japon, vivre pour toujours, je crois qu'elle plaisantait. Et bien sûr, il avait dit non merci, mais je crois que ça plairait à Sébastien. Il s'en souvient pas sans doute. Mais ça, c'est la nature de l'homme, de vouloir pour soi les mauvaises choses pour les autres. Une remarque aussi qui est importante, on dit que l'amour agapé, c'est l'amour qui se sacrifie. Et pourtant, ce verset 3 nous dit que c'est plus que les sacrifices. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On peut faire des sacrifices sans amour. Pour avoir un renom, parce qu'on est forcé, parce qu'on est inconscient du danger. Mais l'amour agapé est plus que ça. Et le verset 4 nous rappelle aussi, comme on l'a vu dans le passage du fruit de l'esprit de Galates 5, 22, que l'amour, il n'hésite pas, ça ne gêne pas si on lui marche sur les pieds. Il continue d'être gentil, d'être bon. Et on a vu que 1 Jean nous rappelait que Dieu est amour, Jésus est amour. Et c'est vrai que si on remplace dans ce passage le mot amour par Jésus, alors on trouve une parfaite identité, une parfaite substitution. On peut dire par exemple, Jésus est patient. Pierre nous dit que le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers tous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et à la repentance. Ça, c'est dans 2 Pierre 3,9. Jésus est serviable. On sait que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça, c'est Marc 10, 45. Jésus n'est pas envieux. Jésus est un Dieu jaloux, il nous est dit, mais la jalousie de Dieu, ce n'est pas la jalousie des hommes, ce n'est pas la jalousie égoïste, c'est la jalousie de quelqu'un qui veut préserver l'autre. Comme on peut être jaloux de sa fiancée pour qu'il ne lui arrive rien de mal. Jésus ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il est même dit dans Philippiens 2,8 qu'il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il aurait pu dire, bon, ça suffit, j'en ai assez. Hein. J'appelle les anges, on va remettre un peu d'ordre là en Jérusalem et on va voir Pontius Pilate là. Tu vas voir Pontius Pilate. Mais non, il est allé jusqu'au bout sans se prévaloir de sa divinité. Jésus ne fait rien de malhonnête. Il n'a même pas piqué des trombones chez son papa, le charpentier, ou des bouts de bois, pour faire des meubles par côté, du travail au noir. Il est dit qu'il a été tenté comme nous tous à tous égards, mais sans jamais commettre de péché. Ça, c'est Hébreux 4, 15. Jésus ne cherche pas son intérêt. S'il l'avait fait, il serait resté auprès du Père. Paul dans Philippiens nous dit que d'avoir la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Il a accepté de se dépouiller lui-même, de prendre la condition d'esclave en devenant semblable aux hommes. Et il s'était humilié encore, on l'a vu, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus ne s'irrite pas. Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, 23, que lui qui était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est pas facile ça, lorsqu'on se fait insulter, de rien dire. On a tout de suite envie de répliquer, de se venger. Et ça, c'est la vieille nature qui réagit comme ça. Et Jésus, lui, ne s'irritait jamais. Jésus ne médite pas le mal. La phrase pourrait être traduite, il ne tient pas un compte des mauvaises choses qui ont été faites contre lui. Donc il tient pas, il n'a pas un petit carnet sur lequel il marque jour après jour ce qui a été fait contre lui. Dieu merci. Le psaume 5:5, tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le mal ne séjourne pas auprès de toi. Ou un autre passage dans le prophète Michée dit que nos fautes, il va les jeter au fond de la mer pour qu'on ne puisse plus les repêcher. Nous, notre idée de la justice, c'est de faire des listes. Peut-être qu'on ne va pas jusqu'à les écrire, mais bien souvent, l'amour oublie, c'est, il n'y a pas de petit carnet noir. Jésus ne se réjouit pas de l'injustice. Le psaume 5:6 dit « Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. » Le même psaume 51, dit que Jésus se réjouit de la vérité. Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Jésus pardonne tout. Ça c'est Matthieu, c'est plutôt Ésaïe 43 qui dit c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Jésus fait confiance, il croit tout. Il nous dit même, vous pouvez avoir confiance, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Si je vois que vous demandez sérieusement par la foi, je vous le donne, je vous crois. Jésus espère tout. Il attend le mieux de chacun d'entre nous. Il y a une théorie en gestion des ressources humaines qui s'appelle la théorie X. Qui s'oppose à la théorie Y. Et la théorie Y, c'est de dire que les employés sont des incapables, que si on les laisse à eux-mêmes, ils vont faire que des bêtises. La théorie X, au contraire, pense que les employés, les ouvriers, les employés de bureau, peu importe, sont des personnes qui ont une tête, qui sont responsables, qui, proprement motivées, vont donner de bonnes choses. Et c'est justement Jésus à la théorie X. Il nous pardonne et il sait, il nous fait confiance pour faire de bonnes choses pour le royaume de Dieu. Quelle confiance! Il aurait pu utiliser des anges pour annoncer l'évangile, mais non, il nous donne ce trésor il nous fait confiance pour le répandre sur la surface de la terre. Quelqu'un a dit que au ciel, les anges demandaient à Dieu, mais tu as pas un plan de secours pour, parce qu'avec les hommes, ça va foirer. Et Jésus a dit non, c'est le seul plan que j'ai. Confie ce trésor à des hommes, il espère tout. Il a même dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus supporte tout. Ésaïe 53 dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Jésus a pris tous nos péchés, toutes les choses les plus horribles. Paul nous dit d'être innocent en ce qui concerne le mal. Et c'est vrai qu'il y a des choses horribles on lit dans les journaux, ou on voit dans les films, on ne savait pas qu'on pouvait faire des choses pareilles. Et toutes ces choses, les pires, même celles qu'on ne connaît pas, même celles qu'on n'imagine pas, Dieu les a portées sur nous à la croix. Jésus les a portées sur nous à la croix. Il s'est chargé de ses péchés. Il a reçu la punition que mérite le péché, cette chose horrible. Finalement, Jésus ne succombe jamais. C'est vrai que dans l'Apocalypse, il a dit « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Quel programme que ce chapitre 13, cet amour agapé. Alors c'est vrai, vous me direz, pour le commun de mortels, c'est complètement inaccessible. C'est vrai. Mais pour le croyant, Dieu désire le conformer à l'image de Christ. Cette image-là, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à Jésus, c'est quelque chose qu'il désire pour chacun des personnes qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Dans Romains 8, 29, il dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. » Donc Jésus, c'est le prototype en quelque sorte d'un homme idéal que Dieu veut pour tous les hommes. Et c'est vrai que le test de notre maturité spirituelle, ce n'est pas le nombre de versets de la Bible que nous connaissons par cœur, ce n'est pas le nombre d'années d'études du grec ou de l'hébreu que nous avons pu faire, ce n'est pas le nombre de Bibles distribuées, ce n'est pas le nombre de sermons prêchés. Le vrai test de notre maturité, c'est l'amour dans ma vie. Et un bon test, justement, c'est d'essayer de remplacer. On l'a fait pour Jésus, ça marchait parfaitement, de le remplacer avec notre propre nom, notre propre prénom. Si par exemple je fais ça pour moi, je dis Pierre est patient, Pierre est serviable, Pierre n'est pas envieux, Pierre ne se vante pas, Pierre ne s'enfle pas d'orgueil, Pierre ne fait rien de malhonnête, Pierre ne cherche pas son intérêt. Mais je vois que tout le monde tousse ou rigole. Et c'est drôle, c'est Tonio qui a commencé à rire le premier parce qu'il me connaît le mieux peut-être. Vous riez pour moi, mais est-ce que vous feriez mieux ? La question, c'est comment changer ? Comment avoir cet amour agapé en nous, ce fruit de l'esprit. On a parlé un peu de ce sujet mercredi soir, en étudiant justement la marche selon l'esprit. Et on a vu ce passage dans Galates, la même épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20. Paul affirme, et on peut le dire pour chaque chrétien, page 214, Galates 2:20, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et donc il y a une réalité spirituelle qui nous avons du mal à saisir complètement, mais elle affirme que lorsque nous plaçons notre foi en Christ, il se produit une sorte de crucifixion rétroactive qui nous touche aussi. Si Christ est en nous, lui qui a été crucifié, nous sommes crucifiés avec lui. Et ce n'est plus notre vieille nature, ce n'est plus notre vieux moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et notre vie, nous la vivons dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Il y a un autre passage dans Colossiens 3 où il est dit aussi que nous sommes ressuscités avec Christ. Et c'est ce que symbolise le baptême. Nous mourons avec lui sous l'eau et nous revenons à la vie. Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie avec lui. Et donc il faut avoir la foi que notre vieille nature a été vraiment remplacée par son Esprit Saint. Encore une fois, nous ne pouvons pas, par les efforts de notre vieille nature, manufacturer, produire cet amour agapé. On peut prendre toutes les bonnes résolutions qu'on voudra le 1er janvier. Si c'est pris dans la chair, en disant je vais être poli avec tout le monde, je vais plus m'énerver, je vais plus klaxonner lorsque une voiture passe en face de moi ou coupe, fait une queue de poisson. On sait que ça ne dure pas. On sait qu'arriver vers le 10 janvier, ça y est, c'est fini, quoi. Peut-être le 15 si on est très fort. Mais c'est la force de la chair, c'est la force faible. Et un des autres secrets, c'est, on l'a mentionné mercredi encore, c'est le passage de Jean 15. L'apôtre Jean, dans son évangile, au chapitre 15, on va lire les versets 4, à partir du verset 4. Ça, c'est aussi un des passages qu'il est bon d'apprendre par cœur, tout le chapitre 15, mais le début en particulier. Et là, on va lire le verset 4 et 5. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire qui est une importance éternelle, une importance spirituelle, quelque chose qui va durer. La question bien sûr c'est demeurer en Christ, qu'est-ce que ça signifie, comment on peut demeurer en Christ? Là l'image de la branche plantée connectée à la vigne nous aide. Il faut d'abord croire que la vigne est capable de nous supporter. Il ne faut pas penser à nos efforts propres, mais à dire Jésus est là pour me tenir. Ma responsabilité, c'est de recevoir la sève, de recevoir la parole, de recevoir son Esprit Saint, de communier par la prière, d'être en communion avec Dieu, de penser à sa présence tout au long de la journée. Ça, c'est recevoir la sève. Si je crois que la vigne va me soutenir, que je reçois la sève. Et un dernier point, c'est peut-être aussi se soumettre à la vigne. Si je suis vraiment parti de la vigne, sa volonté va devenir la mienne. Il n'y a pas une branche qui est plantée dans un arbre et puis qui dit « Tiens, je vais descendre vers le bas maintenant. » Plutôt que d'aller chercher de l'oxygène vers le haut, la lumière, je vais... Non. Chaque branche est contrôlée, soumise à la vigne. Et la volonté de Dieu, de Jésus, c'est le service avec amour, l'amour en action. Vous vous souvenez de Matthieu 25, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Donc le rôle de la vigne, c'est de me tenir, de me faire croître, de me faire porter du fruit. Ma responsabilité, c'est d'être connecté, c'est d'être en communion, c'est de recevoir la sève. Moi, je ne peux pas porter du fruit tout seul. Nous avons vu que le Saint-Esprit a plusieurs ministères. On a parlé du ministère de consolation. Il vient à côté de nous pour nous encourager. On a parlé du ministère de révélateur du péché, de la justice, du jugement dans le cœur des hommes. Mais un des plus beaux ministères peut-être de l'Esprit Saint, c'est ce qu'on pourrait appeler celui de la transfusion divine de cet amour agapé. Romains 5:5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est lui qui nous aide, qui nous a aimés en premier. Jean a dit « Nous aimons, nous sommes capables d'aimer parce que lui nous a aimés en premier ». Et donc, c'est le fruit de l'Esprit, c'est cet amour agapé, cet amour surnaturel qui est la marque du vrai chrétien. Et on pourrait dire, pour reprendre cette image des grenades et des clochettes, que ce fruit de l'esprit, cette grenade, ça doit correspondre à une explosion d'amour autour de nous. Et c'est seulement lorsque nous sommes remplis de l'esprit, que nous recevons cet amour, que nous pouvons faire avancer le royaume de Dieu. Prions. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous mettons notre nom à la place de l'amour dans ce passage, Seigneur, nous pouvons vite voir combien nous sommes loin de ce que tu attends de nous, Seigneur. Mais nous savons aussi que tu as commencé une œuvre en chacun de nous, et aussi faible que nous soyons, Seigneur, toi tu es capable de nous faire grandir pour que nous te ressemblions, Seigneur. Et Seigneur, c'est notre prière, c'est que de plus en plus nous soyons conformés à ton image, Seigneur. Nous savons que, comme l'indique ce passage de Jean 15, pour porter beaucoup de fruits, il faut des fois que tu viennes couper les branches mortes, que tu viennes émonder l'arbre. Et Seigneur, ça fait mal, mais nous savons que c'est en portant du fruit, en portant beaucoup de fruits, que tu es glorifié, Seigneur, et nous souhaitons te glorifier. Béni sois-tu pour cet amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'avoir incarné de façon si parfaite et d'être toujours cet amour. Dieu est amour, Dieu est agapé. Seigneur, aide-nous à être des reflets de cet amour autour de nous, Seigneur. Tous les gens qui souffrent, qui sont mal, qui sont en situation difficile, qui manquent d'amis, qui manquent de joie. Seigneur, aide-nous à aller vers eux avec le reflet, aussi pâle soit-il, Seigneur, de ton amour. Unis-nous tous, Seigneur, dans cet amour. Et notre prière, Seigneur, c'est que même ce petit groupe, Seigneur, soit connu pour l'amour qui règne, Seigneur. Nous prions ces choses par le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Et je pensais, en faisant cette étude, un petit exercice que vous pouvez faire peut-être. On a parlé des quatre types d'amour: l'amour physique, l'amour de compagnonnage, l'amour familial et l'amour de Dieu, l'amour agapé. C'est de reprendre ces quatre types d'amour et de voir en même temps les 16 caractéristiques dont nous avons parlé, et de voir les caractéristiques qui s'appliquent et celles qui ne s'appliquent pas dans les différents cas. C'est un peu comme un test comparatif où la voiture de chez Citroën a ses éléments, mais par contre la voiture chez Mercedes a tous ses éléments. L'amour agapé va avoir tous les éléments, et on va voir que les autres n'ont pas les mêmes éléments. L'amour physique, par exemple, est-ce qu'il est patient? Non, il veut tout de suite. L'amour compagnonnage, est-ce qu'il va se laisser marcher sur les pieds tant et tant de fois? Non, au bout d'un moment, on va dire, merci, ça suffit. Donc ça, c'est un petit exercice que je vous laisse faire pour réfléchir justement à l'amour dans votre vie et entre nous. Vous n'avez pas besoin d'amener le devoir, mais c'est un petit travail à faire. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous donne une bonne semaine. Et encore une fois, n'oublions pas de prier pour les absents, pour Alexis et tous les autres. Merci. Amen.